Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archie podcast season 4.
Saison 4 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archie.
Chers auditeurs, très heureuse d'ouvrir la saison 4 de Comme d'Archie Podcast en poursuivant le cycle dédié à l'agence Leclerc Associé, amorcé en mai dernier. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mohamed Lofti Belouari, architecte urbaniste, directeur du pôle urbanisme et paysage de l'agence Leclerc Associé, et son invité, Nicolas Détry, fondateur de Yes We Camp, urbaniste et entrepreneur social. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors tout d'abord, pouvez-vous nous raconter brièvement vos parcours respectifs? Mohamed, vous...
Oui, je commence brièvement. En fait, mon parcours de vie a commencé de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis né et j'ai grandi à Casablanca jusqu'à mon bac, en fait, où je suis arrivé après en France. Paris, pour moi, enfin, depuis enfant, quelque chose d'assez... une sorte de ville capitale à laquelle il fallait que j'arrive un jour. Et donc, après mon bac, donc, je ne suis pas arrivé à Paris, mais je suis arrivé à Bordeaux pour des études d'architecture où j'ai vu la ville se transformer à ce moment-là. C'était vraiment un projet urbain chez L1 que j'ai vu avec à la fois l'arrivée du tramway, la transformation des quais, une sorte de... Voilà, et donc mon appétence pour le projet urbain a commencé quelque part un peu là avec tout ce qui se passait dans cette ville et puis des études d'architecture assez passionnantes avec des professeurs qui m'ont vachement marqué, qui m'ont intéressé. Donc après Bordeaux, je suis monté à Paris, enfin, un moment que j'attendais depuis très très longtemps. Je suis monté à Paris pour continuer, poursuivre mes études en projet urbain, cette fois-ci, une spécialisation à l'école d'architecture de Paris-Belleville, en 2009, l'année du Grand Paris, où j'ai pu... C'était la dernière année d'Antoine Grumbach à l'école, et c'était un moment assez passionnant parce que j'ai découvert la grande échelle à ce moment-là, et c'était une découverte. Et puis après, s'en est suivi donc plusieurs expériences professionnelles, où après je suis arrivé chez Christian de Panzempart, que j'admirais depuis quelques années, et surtout pendant que j'étais à l'école. Et donc je suis arrivé à son atelier, où là j'ai pu toucher du doigt à la fois le travail avec l'Atelier international du Grand Paris, ou Euralens avec Michel Devine, une fabrique de la ville. Et ça, c'était assez enrichissant. Et puis j'ai découvert aussi toute cette démarche très basée sur le dessin. En fait, il y a un vrai sujet chez Panzempart sur le dessin, la matérialité des choses, la spatialité, en fait. Il y avait quelque chose d'assez... qui m'a beaucoup intéressé. Et puis après quelques années là-bas, je suis arrivé chez Atelier 234, où là j'ai découvert autre chose. J'ai découvert l'urbanisme opérationnel. Quelque part, j'ai découvert un peu la vraie vie d'urbanisme un peu autrement. Et puis après, je suis arrivé chez François Leclerc. À l'époque, dans le pôle urbain dirigé par Delphine Baldé, et qui, donc depuis maintenant, depuis 2016. Donc je suis arrivé en tant que chef de projet là-bas, et puis j'étais très intéressé par l'approche qui était un peu différente finalement de mes expériences précédentes, où le projet se fait à la fois, non pas que par le dessin, mais surtout par le récit, et par cette construction du projet avec les autres, en acceptant le regard aussi des autres partenaires. Et ça m'avait beaucoup plu. Et donc, depuis 2 ans, j'ai pris la direction de ce pôle avec Mathilde Adam. Et puis, on essaie d'animer ce pôle qui est structuré finalement sur quatre piliers, à la fois des études urbaines stratégiques, des études opérationnelles, mais aussi de la maîtrise d'œuvre des espaces publics, et puis la recherche et développement, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse avec une équipe de jeunes collaborateurs très, très talentueux.
Alors, si je comprends bien, actuellement, ce pôle à l'agence Leclerc regroupe à la fois l'urbanisme opérationnel, mais aussi la recherche, l'idée.
Exactement. Et la question du récit, c'est-à-dire qu'en fait, on passe beaucoup de temps à écrire des choses, à raconter des choses, et en fait, c'est un peu ça qui m'anime au quotidien, c'est finalement raconter ces histoires, et puis pas que des histoires, mais transformer des territoires avec les acteurs, et puis construire des récits de projets.
En se posant, si possible, les bonnes questions.
Exactement.
Nicolas Détry.
À moi.
Oui, à vous.
Je pense que c'est important de dire que j'ai grandi hors la ville, à la campagne, en Normandie, près du Havre. En tout cas, jusqu'à la fin de la primaire. Et c'est un moment important pour moi. Je pense que le goût du plein air a commencé à ce moment-là. Et dire aussi qu'on était quatre dans ma famille, assez rapprochés. Et donc, dès les débuts, j'ai des fondamentaux de fonctionnement collectif. Ensuite, un peu plus tard, au moment des études, j'ai fait une école de commerce. Enfin, j'ai fait une prépa HEC et j'ai été à l'école qui s'appelle l'ESSEC, qui a une chaire d'économie urbaine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi l'ESSEC et qui avait aussi cette particularité d'être une école qui n'a pas un campus, mais qui est dans la ville de Cergy-Pontoise, ce qui m'a aussi beaucoup plu. Donc, j'ai pu avoir comme ça une formation sur les questions de complexité, je trouve, sur la gestion d'une structure et avec le pendant presque Sciences Po urbanisme qui nous était dispensé dans la chaire d'économie urbaine. Et c'est aussi un moment, l'adolescence et le temps des études, où je suis beaucoup parti de différentes manières, avec des amis ou tout seul. J'ai fait des voyages longs en bateau et également j'ai habité en Afrique du Sud où j'ai travaillé dans une école de cirque, puis j'ai habité au Brésil. Et ça a été des moments où j'ai regardé le monde différemment. J'avais envie depuis longtemps de travailler sur les questions collectives et de ville et de société, et de comment est-ce qu'on s'organise. Et donc j'ai d'abord été voir du côté du service public, j'ai fait un apprentissage de 2 ans à la SNCF, puis j'ai travaillé 6 mois dans un office HLM. C'était pas exactement ma place dans une manière de fonctionner un peu trop lourde, un peu trop longue. Et j'ai eu une chance assez belle ensuite de prendre la direction, hein, jeune, d'une structure qui s'appelle les Ateliers de Cergy et qui organise des ateliers de créativité sur les questions urbaines qui avaient été créées par les urbanistes des villes nouvelles donc dès le début des années 1980. Et quand je suis arrivé, la structure avait 25 ans et on lui a redonné un souffle en déployant la méthode à l'étranger. Donc j'ai pu organiser une bonne trentaine d'ateliers dans différentes régions du monde où à chaque fois on envoyait des équipes qui passaient plusieurs mois sur site pour comprendre, étudier, analyser et ensuite réunir des personnes de profils très variés, de nationalités variées, de métiers variés, d'âges variés pour travailler pendant 2 semaines en chambre, au début sans ordinateur, puis pour réfléchir à proposer à la fois une vision de moyen terme et des actions rapides. Donc ça m'a beaucoup plu. Et là encore, j'ai pu cultiver ce goût de l'observation sur la manière dont on est organisé. Enfin, nous, en tant que tribu humaine, parce que l'organisation économique et sociale, qui en fait signifie tout ce dont on a besoin sur une journée de 24 heures. On s'occupe des enfants, on s'occupe de nos proches. Il y a des questions d'éducation, de loisirs, d'alimentation, de besoins primaires. Et en fonction, dans le delta du Mékong ou en Inde, au Mexique, les choses s'organisent à chaque fois d'une manière particulière et ça m'a beaucoup intéressé. On était souvent dans des quartiers qu'on décrirait populaires ou des villes émergentes qui ont moins de niveau de richesse que ce que je connais en France et dont l'absence relative de services aux personnes et quelque part un marché capitalisé mondial qui est moins présent ont permis ou permettent des formes d'organisation qui m'intéressent. Et c'est pour ça ensuite, et la bascule, c'était la création d'Yes We Camp au moment de la capitale européenne de la culture à Marseille. Dans mon parcours, en tout cas dans mon intention, elle était nourrie de cette enfance un peu plein air, les voyages, le goût de l'audace et d'aller explorer des manières alternatives à la production quotidienne pour répondre aux besoins de services et de production de biens. Et je me suis dit, après les années des ateliers de Cergy, que je voulais davantage m'ancrer dans un endroit. On s'est installé à Marseille avec ma compagne, on a eu deux enfants. Et on s'est mis en situation, d'abord avec le projet de 2013, puis avec sur d'autres situations dont on va sûrement parler, de faire des sortes de laboratoires grandeur nature d'une autre organisation sociale.
Ouais, je pense que oui, on va en reparler. Alors, Mohamed, pourquoi avoir souhaité vous entretenir avec Nicolas Détry, lequel, je le rappelle, est un acteur devenu incontournable de la question de l'urbanisme transitoire et puis aussi du temps dans le projet?
Oui. Pourquoi Nicolas? Parce que, d'une part, je suis assez admiratif du travail qui est mené par Yeswicamp, de cette capacité, en fait, à rendre réelles des utopies, finalement. Cette espèce de fabriquer, transformer des lieux de façon collective. C'était ça dont je suis très admiratif. Et puis après, aussi, plus généralement, sur cette question d'urbanisme transitoire, comment elle a complètement bousculé notre façon de faire aussi le projet urbain aujourd'hui. C'est-à-dire, dans mon parcours, j'ai commencé en 2009, on faisait les choses tellement différemment, c'était un urbanisme un peu différent. Aujourd'hui, avec des acteurs comme Yeswicamp ou comme d'autres, on fait les choses autrement et c'est ça qui est assez enrichissant et intéressant. Donc il y a ça à la fois, cette admiration, mais aussi parce qu'on se croise régulièrement donc, sur plusieurs de nos territoires, à la fois sur Marseille, sur Romède, où je me rappelle très bien de ton intervention à l'atelier MOVE sur la régie. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était un jour de mars 2017, donc des choses qui vont voir le jour bientôt, mais aussi sur Bercy-Charenton, où là, vous venez d'inaugurer Bercy beaucoup, qui est la préfiguration de la transformation de ce site, ou des collaborations communes, notamment sur la narration des JO en 2016.
C'était super.
Voilà.
Bon, à vous deux, comment vous définiriez l'urbanisme transitoire? On va revenir après sur le temps du projet, mais déjà, poser les bases.
Ouais, est-ce que je peux réagir à cette formulation, à cette question, en disant que pour nous, ce qu'on appelle urbanisme transitoire, c'est presque un effet secondaire. C'est, je vois bien tout. Combien dans les yeux d'un aménageur ou d'une collectivité, c'est important, utile d'observer ce qui peut se passer dans des périodes bornées dans le temps, pour ensuite être capable d'identifier ce qui, parmi ce qui est vécu dans cette période temporaire, va pouvoir être injecté dans le programme dit définitif et avoir cette intelligence et souplesse d'adapter la programmation qui était peut-être faite au départ. Mais ce qui compte avant tout pour les personnes qui sont engagées dans la réalisation de ces projets, qui sont des projets qui épuisent les personnes. Il faut se rendre compte qu'une fois qu'on gère les espaces que l'on gère, c'est du 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Et on se met dans des situations complexes puisqu'on choisit d'avoir une cohabitation de mondes différents, de groupes différents, de groupes sociaux différents. Les résultats sont intéressants et souvent très beaux et très épanouissants à titre individuel, mais c'est aussi très exigeant en termes de mobilisation sur des amplitudes horaires très larges. C'est d'ailleurs pour ça que on souhaite souvent habiter sur les sites pour avoir cette disponibilité. Donc la motivation qui est importante, on ne répond pas à une commande, on ne répond pas à une prestation, en tout cas telle que c'est organisé aujourd'hui, elle vient d'une motivation collective. Et cette motivation collective, c'est la fabrique d'une alternative sur notre organisation sociale. Et l'espace de l'urbanisme temporaire, transitoire, est un espace privilégié puisqu'il nous donne accès gratuitement à des endroits de grande taille que nous ne pourrions jamais avoir sur un rapport financier d'abord, et puis même en termes d'autorisation de programme, lorsqu'on choisit de mettre dans un même immeuble des sortants de prison hébergés à côté d'un four de poterie et une salle de spectacle au bout du couloir, que ce soit les autorités réglementaires, les pompiers, la commission de sécurité, de leur côté ils vont l'autoriser peut-être à titre expérimental, et si c'était un programme définitif, c'est pas si évident que ce soit validé, mais avant même les questions techniques, c'est les porteurs de programme, les acteurs avec lesquels on travaille, parce que chaque projet de type Yeswicamp est finalement, on crée un cadre, on crée une ligne éditoriale et ensuite on assemble des genres, on assemble des personnes, on assemble des structures, et ces structures-là qui jouent le jeu sur la période de temps qui est indiquée ne l'auraient pas forcément joué s'ils étaient dans une perspective de long terme à 15 ans. Donc on joue de la possibilité de cet espace comme d'un cadre fertile. Mais l'ambition numéro un, c'est d'être un démonstrateur audacieux. Enfin, il y a vraiment une notion d'audace, de savoir oser. Pour nous, l'organisation, notre organisation sociale et économique, elle dysfonctionne. Enfin, elle a des externalités négatives qui sont importantes. On va devoir changer des choses. Enfin, là, il y a la question des limites planétaires, mais il n'y a même pas que ça. Je pense qu'en dépit de surconsommer les ressources, on n'en est même pas si heureux collectivement. On a des villes et une organisation qui fabrique un peu de tristesse, de la solitude, de l'écart, un sentiment d'impuissance. Donc nous, on vient à cet endroit-là et on se dit, organisons-nous différemment pour tester une autre manière. Et on espère ensuite que cette autre manière, elle viendra irriguer évidemment le projet urbain si on a un aménageur qui est attentif et de qualité, ce qui a souvent été le cas, mais même au-delà de transformer les métiers, qui sont tous les métiers qui ont un rôle important dans la structuration de la vie quotidienne.
Alors, ma question suivante était, pourriez-vous évoquer les véritables leviers de l'urbanisme transitoire ? Vous avez parlé d'espace, vous avez parlé d'humain, vous avez parlé d'aménageurs, mais est-ce que, par exemple, en rue, la Caisse des dépôts, Action Logement, des ministères, sont des véritables leviers pour vous ?
Le levier, c'est l'espace, d'abord. Oui. Et ce qui est intéressant dans nos situations, c'est que par le fait d'avoir une durée définie, qui n'est pas forcément courte, hein. On a des projets avec des mises à disposition sur 5 ans, 8 ans et même 3 ans. 3 ans, c'est une étape et ce n'est pas temporaire, c'est un cycle. Donc nous, ce qu'on observe, on veut utiliser le temps comme une matière et on fabrique des séquences. Et quand on dit temporaire ou transitoire, il y a toujours l'impression que ça serait une sorte de bulle à part, alors que non, nous sommes une étape du processus. Mmh. Donc d'ailleurs, quelque part, ne nous appelez plus urbanisme transitoire, mais plutôt urbanisme d'émergence, puisque ce qui compte, c'est que avec cette intention de créer une alternative à notre organisation, on fait émerger. Qu'est-ce qu'on fait émerger ? Trois choses souvent, des usages, une économie et une gouvernance. Ça va souvent de pair. Le choix de fonctions d'activité, de fonctions urbaines qu'on peut choisir de manière arbitraire sur nos sites, ensuite va fabriquer des porosités, des rencontres. Et de cette juxtaposition vont naître une économie et nécessairement une gouvernance dans le sens où on aura besoin de règles. Parce qu'on crée beaucoup d'intensité d'usage. À la fois, à l'instant T, on a des fonctions différentes au même moment. Et on a aussi cette manière d'agir sur la chronotopie où un même espace va avoir différents usages le matin, le midi, le soir, la nuit. Donc on va se retrouver devant une nécessité de produire des règles. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est dans une démarche politique. Et je crois que l'urbanisme cherche à nous faire bien vivre dans des espaces où de nombreux humains cohabitent. La finalité, c'est cet épanouissement, une vie paisible, heureuse, apprenante. Et aujourd'hui, on est très soumis au marché, on est dans des espaces toujours marchands. Donc là, ce qu'on observe, c'est qu'en choisissant des endroits desquels on enlève la contrainte financière ou marchande, en tout cas, il n'y a plus de redevabilité, donc un espace commun, et dans cet espace commun vont naître d'autres usages et la nécessité de règles dont ensuite on peut espérer s'inspirer ailleurs et qui, en tout cas, vont probablement toucher émotionnellement de manière sincère et forte toutes celles et ceux qui y prennent part.
Alors, ma question suivante, c'était sur le processus, mais finalement, vous venez de le décrire.
C'est vrai qu'il y a la question du temps en fait, dans le projet urbain et que je trouve assez, assez intéressant. Alors, on peut aussi peut-être parler d'urbanisme expérimental, c'est-à-dire que ce que nous a appris finalement l'urbanisme transitoire, c'est cette capacité à être un petit peu plus dans le lâcher-prise, à tester des choses. Je pense que c'est assez intéressant avec l'urbanisme transitoire, vu que c'est des moyens pas très importants, c'est-à-dire qu'on peut aussi tester des usages, accueillir des choses. Et c'est intéressant aussi de pouvoir l'avoir sur plusieurs temps du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que le temps... Initialement, l'urbanisme transitoire, c'est vraiment le temps zéro du projet. C'est-à-dire, on ouvre les lieux, on les active, on remet les sites dans la carte mentale des habitants d'une ville, on essaie de transformer leur identité et tout ça. Mais je pense que au-delà de ça, il y a aussi d'autres vertus. Après, c'est du coup la question du temps aussi dans le projet urbain. C'est-à-dire que c'est clair que le projet urbain se construit dans la durée, c'est-à-dire que c'est très long, c'est souvent très très long. Il est soumis à tout un tas d'aléas, à la fois les finances, à la fois les crises. Là, on le voit un peu aujourd'hui, c'est-à-dire que tous nos projets changent. Et du coup, ce que nous a appris cette méthode, c'est finalement d'être un petit peu plus dans le lâcher-prise, et ça, c'est intéressant. Et du coup, le projet urbain, il va pouvoir se construire aussi au fur et à mesure du temps.
Parce qu'en fait, vous intervenez à la fois sur les interstices dont parle Nicolas Détry, mais aussi sur le reste, qui est très contraint, pour le coup.
En fait, nous, dans notre méthode, finalement, de comment on aborde un peu les territoires, je pense qu'il y a avant tout la question du récit de transformation de ce site, la question des ambitions qu'il faut poser, la question du dessin, avec un EI, le dessin des sites. Donc c'est important d'avoir ces grandes intentions, ces grandes ambitions, et puis de les partager avec les acteurs du territoire, d'une part. Et de deux, c'est comment on essaie d'élaborer une sorte de stratégie de transformation de ces sites, donc avec des temps de projet, enfin qu'un premier temps qui est le temps de l'activation, avec des choses connues, et que chaque temps finalement puisse avoir sa propre logique et apporter des choses positives à chaque étape, tout en gardant à l'esprit donc les grandes orientations du projet qui sont partagées avec tous les acteurs, et que le projet puisse se faire aussi dans le temps, qu'on ait le droit aussi de se tromper, de modifier les choses. Et c'est là où il y a une grande différence entre le projet urbain récit et le projet urbain dessin plan. C'est-à-dire c'est au final, voilà, on sort complètement du plan masse, et puis on est plutôt là dans un processus plus ouvert, mais qui pose tout un tas de questions à la fois de financement, à la fois d'acceptation par les acteurs, à la fois... voilà. Donc c'est un peu ça que je trouve intéressant.
Finalement, c'est un peu comme le chef d'orchestre.
Oui, c'est un peu comme le chef d'orchestre, mais qui construit du coup, dans le temps, son projet.
Et alors, il y a une question de la très française que je suis. Est-ce que ces interstices, finalement, c'est pas un espace de liberté que l'habitant peut s'approprier? Et à partir du moment où on maîtrise tout, est-ce qu'on perd pas de la magie?
Oui, moi je peux réagir, oui, évidemment. Et effectivement, est-ce que l'urbaniste est-il le chef d'orchestre? Faut que ce soit un chef d'orchestre qui sache se faire déborder, hein, en tout cas. Mmh. Parce que effectivement, on dit souvent, et c'est vrai, hein, que l'urbanisme, la fabrique de la ville, c'est du temps long. La construction physique, oui, si on veut casser des choses, si on veut les reconstruire, si on veut avoir les autorisations, faire des choses très hautes, ça va prendre du temps. Mais la vitalité, c'est pas long. On peut transformer en quelques jours un espace. Mmh. Et la ville, c'est la fabrication de ses émotions et de ses rythmes. Donc, l'urbaniste est aussi capable de jouer sur des temps très courts. Ce qui est important, c'est d'être capable de construire sur ces briques courtes. Et nous, les espaces de liberté, où effectivement, on va essayer de donner ce message très permissif, autorisant, capacitant, pour susciter le réveil d'intention. Ça, c'est quelque chose qu'on croit fondamentalement, c'est que nous tous et toutes, nous qui habitons tous ces territoires, quel que soit le territoire, on a par nature, c'est quelque chose je pense qu'on partage à l'échelle de toute la tribu humaine, on aime plutôt bien s'impliquer, on aime bien faire des choses, on aime bien être en relation avec les autres, on aime bien se sentir utile, on aime bien apprendre, on aime bien transférer ce qu'on connaît soi-même. Et quelque part, l'espace peut jouer un rôle de déclencheur pour révéler toutes ces envies profondes de liens, de coproduction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mécaniques qui nous isolent, et notamment en ce moment, le développement des plateformes. On peut tout faire tout seul, en fait, depuis son smartphone. Et quelque part, en parallèle de l'augmentation de cette économie de plateforme, on voit que les lieux qu'on appelle tiers-lieux ou urbanisme transitoire ou même les centres sociaux, enfin tous les espaces collectifs, en ce moment, ont une forme de dynamique qui leur est propre. Donc il y a les deux phénomènes en parallèle, mais aujourd'hui, la ligne des espaces communs, elle est quand même très marginale par rapport au reste. Et moi, j'aime bien parfois regarder, faire un comparable avec l'industrie. L'industrie, c'est aussi quelque chose du temps long, mais l'industrie, ils ont tous des cellules de recherche et développement sur lesquelles ils bossent avec des personnes très... qui sortent de très bonnes universités, qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de liberté. Et il y a toute une chaîne de processus qui va permettre que chaque chose qui est testée dans ces espaces de recherche, avec beaucoup de liberté et de moyens, va pouvoir ensuite alimenter la chaîne de production pour aller jusqu'au générique de ce qu'une industrie est capable de produire. Et où sont ces espaces dans la ville, en fait? Et pour moi, ils sont dans les initiatives civiles, citoyennes, dans les interstices, mais sauf qu'à l'inverse de l'industrie, ils ne sont pas accompagnés ou légitimés. Donc, c'est des espaces souvent qui doivent se gagner, soit parce qu'il y a beaucoup d'envie, aussi parfois dans l'adversité. Tout ce qui peut passer dans des quartiers populaires, il y a des espaces qui sont repris quelque part, plutôt qui sont gagnés sur la ville conventionnelle. Et ensuite, c'est souvent des projets qui vont être identifiés, mais pas forcément accompagnés. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait davantage une chaîne entre ce qui se crée de manière... Pour moi, on fait de la recherche et développement quand on fait des projets... Tout cadre d'urbanisme transitoire permet de la forme de R&D. Il faut le regarder. Toutes les choses qui sont pleines de vitalité qu'on voit à l'intérieur de ces espaces, elles se posent en alternative à quelque chose qui est très, très, très rigide, c'est le monde urbain. La fabrique du monde urbain et la gestion du monde urbain aussi, les règles de société, c'est beaucoup plus conventionnel et figé que dans l'industrie que je venais de citer aujourd'hui. Donc on est, oui, c'est sûr qu'on vient bousculer une forme d'urbanisme conventionnel du temps long qui en plus produit des bêtises. Il y a quand même, quand on doit anticiper les choses, le monde bouge beaucoup aujourd'hui. On a une sorte de connaissance populaire maintenant des questions en tout cas d'écologie et de limites planétaires. Et on va devoir basculer des choses de manière rapide. Donc il faut sortir de cette doxa d'une forme de temps long avec toutes les rigidités conventionnelles qui existent.
Est-ce que c'est pas une vision historicisante où le mur crée quelque part une frontière très forte?
Le mur et les murs de la ville.
Le mur construit.
Oui.
Ce que je pense, c'est que, par rapport à ce que dit Nicolas, c'est comment finalement l'urbanisme aujourd'hui peut laisser de la place à une certaine forme d'espace de liberté, c'est-à-dire de page blanche où les gens peuvent écrire des choses, où les acteurs à la fois associatifs, à la fois des porteurs de projets, à la fois des habitants, à la fois peuvent aussi écrire finalement cette histoire. Et en fait, c'est un peu la différence finalement entre l'histoire urbaine très classique, presque haussmannienne, du tracé, de la rue, de l'îlot, qui correspondait aussi à une époque peut-être avec des idéaux qui étaient un peu autres, et puis à une autre époque. Et comment l'urbanisme aujourd'hui peut être peut-être plus démocratique, plus adaptable, plus flexible et plus en phase avec les aspirations du monde d'aujourd'hui, en lien avec à la fois la crise environnementale, mais aussi une crise démocratique aussi, je dirais. Je pense qu'il y a un vrai sujet politique aussi qu'on touche du doigt là. Et en fait, on est tous les jours confrontés à ça, avec nos maîtres d'ouvrage, avec les élus qu'on rencontre, avec... Il y a toujours ce besoin, des fois, de cadrer, de décider d'en haut, de dire que tel espace est géré par tel espace est géré par tel, et puis les responsabilités sont partagées. Donc il y a quelque chose un peu de... Et je pense qu'aujourd'hui, le défi, en fait, qu'on a, et ce que nous apprend finalement l'urbanisme transitoire, c'est de sortir de ça. Et de trouver cette espèce d'agilité, de souplesse.
Offrir de l'espace, voilà.
Offrir de l'espace et des pages blanches.
Voilà. Mais en évacuant finalement l'abandon. Parce que dans ces interstices, il y a beaucoup d'espaces abandonnés, livrés à eux-mêmes. Ça peut être très magique pour l'œil d'un photographe, etc. C'est pas contre ça que vous luttez, Nicolas?
On lutte contre le désenchantement et le sentiment qu'on n'aurait plus prise. Et les espaces abandonnés sont un bon terrain parce qu'ils existent, parce qu'ils ont une histoire, et que plutôt que de se dire on va construire une grande chose qui sera prête dans 10 ans ou dans 15 ans, on peut intervenir aujourd'hui. Donc il y a une forme de frugalité. Et comme avec toutes les questions de frugalité, aujourd'hui, c'est compliqué de les rendre attractives, sans avoir l'impression que c'est du moins 10 ans et que tout ce qui serait neuf ou construit à partir de maintenant serait mieux. Et donc moi, j'aime bien l'idée je l'appelle frugal panache. Comment est-ce qu'on peut associer des sortes de valeurs positives, une attractivité, un désir autour du fait d'être davantage sobre? Il y a vraiment, enfin moi je le vis et tous mes collègues le vivent, et pourquoi est-ce que les personnes qui travaillent dans ces projets-là, même si c'est dur et même si c'est pas très bien payé, elles y restent, c'est qu'on s'y épanouit. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la pride, j'ai envie de dire, je sais pas comment le nommer, mais pour que en tout cas le désir vienne sur des modes de vie qui sont moins soumis au marché, à la consommation, à la réussite, enfin que les critères de réussite changent et qu'on ait davantage envie d'être mêlés les uns avec les autres, de plus de démocratie, plus de...
D'être, se sentir vivant.
Et se sentir vivant, oui. Et les espaces vacants, voilà, sont un réservoir d'espace pour offrir le temps, c'est toujours l'espace et le temps, à ce que ces usages puissent s'y installer.
Ouais. Est-ce que, Nicolas Détré, vous vous êtes dit un jour, finalement, ce qu'on est en train de faire, ça a toujours existé ou ça a déjà existé?
Oui, je me suis souvent dit ça. Ouais. Et d'ailleurs, ces moments de ma vie où j'ai eu la chance d'aller dans d'autres espaces géographiques et sociaux, je voyais combien la question de la vie en ville était rythmée par cette vitalité qui se fait sur du temps court. Et tout à l'heure, je parlais de l'industrie, on peut parler des commerces aussi. Aujourd'hui, dans la pratique de l'urbanisme, j'ai déjà entendu des personnes dire que le commerce, c'est ce qui vient en dernier. Faut d'abord avoir une idée, faut tracer le plan, il y a les rues, on installe, il y a du logement, et le commerce est une conséquence. Je me demande si ça n'a pas été différent avant, si au final, y a, le commerce parfois ne... Au Grand Voisin, il y a eu très tôt des commerçants qui se sont installés, alors en même temps que des foyers d'hébergement d'urgence, mais il y avait moins cette séparation des temps. Pour moi, le commerce, c'est de la vitalité. Il y a un commerce quand il y a du flux, quand il y a une polarité, et un commerce est lui-même un endroit de sociabilité, d'échange. Et de manière spontanée, quand on regarde aussi d'autres grandes villes qui se construisent sans urbanistes, hein, dans plein d'endroits du monde, le commerce ne vient pas à la fin. Il vient au moins avec, ou éventuellement même, il vient au début.
Mais peut-être que nos sociétés très occidentalisées ont aseptisé le commerce.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est la rue commence à ressembler à un hall d'aéroport.
Ouais,
donc, et après, il faut lutter pour que ça ne le soit pas.
On va retrouver sa marque.
Voilà, il faut retrouver l'enseigne telle, l'enseigne telle et tout ça, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis après, c'est dans des tableaux Excel et tout ça. Moi, je citerai un proverbe berbère que j'aime beaucoup par rapport à cette question de rez-de-chaussée. On dit « la maison n'amène pas le local commercial » ou l'atelier. Par contre, l'atelier amène le commerce. Donc, en fait, c'est d'abord l'activité économique et après le logement. Et ça matche avec ce que tu viens de dire là, quoi.
Et en fait, ça enchaîne pas mal sur ma prochaine question. C'est pourquoi l'agence Leclerc, qui décroche d'énormes projets à la fois urbains et architecturaux, a-t-elle besoin aujourd'hui de travailler avec des acteurs tels que Yes We Camp? Vous venez d'y répondre. C'est parce que ça réinjecte de la vie, mais de la vraie vie.
Oui, ça met un peu de sel, en fait. En fait, en France, il y a cette espèce de... Il y a une tradition, quand même, du projet urbain à la française. Très dessiné, très tenu, qui est encore là. Et en fait, bon, ces outils, on les utilise encore. Enfin, on continue quand même de dessiner des rues avec des tramways qui passent, avec des cheminements piétons et tout ça. Mais pourquoi on a besoin d'avoir ces acteurs, c'est pour pouvoir aussi sortir d'une certaine banalité. C'est-à-dire qu'on fait des projets tout neufs avec des produits standards, souvent. Les logements ont une certaine épaisseur, il faut que le noyau soit positionné là pour desservir un maximum d'appartements, parce que dans une logique économique, c'est le mieux. Le bureau a une épaisseur à 18 avec des plateaux à 1000, parce que c'est ce qui marche le mieux, donc ça rassure tout le monde. C'est... Après, on a besoin d'avoir des...
C'est très rentable aussi, ça...
Voilà, enfin, c'est... après, on a besoin de cette banalité, mais à côté, on a besoin que la ville soit pas chiante. Je cite un ouvrage de Dariel Mazboungi, qui en a beaucoup parlé. Et en fait, ce qui fait que la ville n'est pas chiante, c'est ça, en fait. C'est ces usages-là. C'est aussi... en fait, je te trouve intéressant avec l'urbanisme transitoire, c'est aussi notre regard porté sur le patrimoine aussi, ou les bâtiments existants. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a beaucoup démoli. Et on continue.
Ah oui. Malheureusement.
Et des bâtiments, en plus, souvent on démolit les plus jeunes. Hein, c'est-à-dire ceux qu'on démolit.
Les plus jeunes et parfois des trucs qui sont exceptionnels.
Oui. J'en ai en tête.
Oui.
et le fait de pouvoir aussi garder ces espèces de fragments, à l'agence on appelle ça un peu les objets trouvés, c'est-à-dire qu'on fait nos diagnostics sur le site. Voilà, il y a des bâtiments, des fois, qui sont intéressants. Et en fait, ces usages permettent de réactiver un peu ces lieux, de pousser à leur rénovation, à leur réhabilitation. Enfin, à Marseille, notamment, typiquement sur la Halle Paoli, sur le quartier, enfin, sur la ZAC littorale, les fabriques, donc un quartier qui est développé avec un opérateur privé, avec Urban Era, Bouygues City. Donc, il y a eu toute une démarche au début qui était transitoire, maintenant qui devient pérenne, de la transformation de halles qui ont accueilli donc ces makers. Ces makers sont finalement restés dans le projet. Et c'est aussi ça qui est intéressant, cette espèce de surprise, finalement. Voilà, il y a un usage qui s'est installé quelque part, et puis après il est resté, et puis ça a permis de sauver des bâtiments. Du coup, d'avoir un bilan carbone beaucoup, beaucoup plus intéressant, parce que c'est beaucoup plus frugal. Et voilà. Donc, c'est parce que voilà, il y a à la fois avoir les usages, avoir des quartiers un peu moins banals et voilà, et un petit peu avec un goût un peu plus intéressant.
Voilà.
Je réagis, Mohamed.
Vous injectez de la magie alors.
Oui, en fait, c'est pas tant. Nous ne sommes pas des magiciens. On crée juste des cadres fertiles où la magie s'exprime par elle-même. Hein. C'est, faut le regarder dans l'autre sens. Comment est-ce qu'on a fait pour avoir une mécanique qui invalide ou en tout cas qui empêche l'émergence naturelle de ce qu'on appelle magie, mais qui est peut-être qu'en fait juste la vitalité naturelle. Et moi, ce que je veux dire, c'est que si on veut du pas banal, de la vitalité, de l'invention, il y a la question de l'accès. Aujourd'hui, c'est trop cher. Tout simplement, en fait. Et du coup, les espaces vacants, pour des raisons structurelles ou pour des raisons interstitielles, ils sont nos meilleurs complices, parce qu'ils permettent de retrouver un accès pas cher ou gratuit, enfin, au prix des charges, comme on le fait souvent. Et c'est vrai dans toutes les villes d'Europe, en tout cas aujourd'hui, et sûrement ailleurs. Donc, quelque part, quand parfois on nous dit « c'est formidable ce qui se passe sur votre site », on dit « c'est juste, c'est moins cher ».
Oui.
Et là, on a rempli à Marseille un bâtiment de 10 000 mètres carrés qu'on avait seulement pour 18 mois, donc un temps très court. Il y a 250 artistes installés et une liste d'attente de 150. Et on doit rendre ce bâtiment à la fin de ce mois. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça a révélé la vitalité de création artistique et l'expression d'un besoin. Donc c'est une peine d'arrêter ce projet, mais c'est une joie d'en avoir eu une expression si visible d'un besoin d'espace de jeunes artistes marseillais qui viennent d'ailleurs, la ville est très attractive en ce moment. Mais si on veut ce pas banal et cette créativité, simplement trouvons les espaces. Et si à cause du marché, on n'est pas capable de trouver les espaces, alors c'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne.
Alors justement, est-ce que vous parlez de Marseille, vous pouvez en parler un peu plus, les quartiers nord, puisque vous avez une expérience là-bas, entre ce qu'on nous balance dans les journaux télévisés et vous, votre expertise, quelle serait votre approche résiliente et durable dans cette résilience?
Sur Marseille, il y a sur notre premier projet en 2013, pendant la capitale européenne de la culture, on avait organisé, d'autres personnes avaient organisé sur notre site le premier congrès de marseillologie. Donc, je suis un marseillologue très très jeune, très novice, mais ce que j'observe, c'est que c'est une ville qui a la capacité de résister au changement. Un peu aux doxa qui peuvent arriver, ça en fait que c'est une ville différente. Elle ressemble pas à Bordeaux, Nantes, Lille, Paris.
Vous êtes en train de dire que c'est un village gaulois.
C'est un village méditerranéen, peut-être plus que gaulois. C'est de nombreux villages qui. Mais oui, effectivement, c'est compliqué de faire des projets à Marseille.
Je le confirme.
Voilà, il faut des instruments d'État parfois.
Oui, mais c'est en même temps passionnant.
C'est passionnant, et parce que justement, donc il y a cette partie qui résiste, mais la ville vit, et vit de manière intense. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup plus aussi les indicateurs sociaux de l'INSEE nous montrent que la ville est plus pauvre, beaucoup plus pauvre même que beaucoup d'autres villes. C'est une ville où à l'extérieur de la ville, ça coûte plus cher qu'à l'intérieur de la ville. Donc, il ne peut pas y avoir une mécanique d'expansion et qui repousse progressivement les populations moins riches, puisque les alentours sont beaucoup plus chers. Donc, les gens vivent à l'intérieur des frontières de la ville, qui sont ces frontières du prix qui coûte plus cher à l'extérieur de la ville et les frontières, bien sûr, géographiques, naturelles, le massif de Calanque, le massif de l'Étoile, la mer Méditerranée. Et à l'intérieur de cet espace, la vie s'organise. C'est une ville, c'est très agréable parce qu'on n'est pas obligé de gagner beaucoup d'argent pour bien y vivre. Donc ça n'enlève pas toutes les difficultés qu'ont beaucoup de Marseillaises et de Marseillais. Mais c'est une ville, d'ailleurs, Yesu Camp est né à Marseille. Je ne suis pas sûr qu'on aurait réussi à naître ailleurs, puisque, en tout cas, quand on habite au centre-ville, on a à disposition les qualités naturelles de l'espace. Les distances sont plutôt courtes. Il y a énormément d'alimentation qui permettent de se nourrir à bon marché. Donc, c'est une ville qui est très accueillante pour ça, par ce côté populaire, bon marché. Et c'est une ville qui, je trouve, aujourd'hui, est peut-être davantage qu'avant, ou alors c'est notre regard qui a changé. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est davantage de coopération. C'est une ville dure, par son climat ou par aussi une forme d'absence de politique publique qui existe. Il n'y a pas une absence, mais il y a beaucoup moins d'interventionnisme pour aider, accompagner. Donc les initiatives civiles se sont souvent construites dans l'adversité, avec beaucoup de courage souvent. Mais ça fait que chacun a un peu son histoire et protège son histoire. Et ça rend plus compliqué de collaborer les uns avec les autres parce que chacun va davantage chérir son identité qu'il a construite effectivement avec courage dans l'adversité, plutôt que de se dire que ce serait naturel de coopérer les uns avec les autres. Donc à l'inverse d'autres régions en France dans lesquelles, avec Yesu Camp, on a aussi travaillé, j'ai trouvé que ça a été long. Le fait de gagner sa place, en fait, et une forme de légitimité. Et aussi du fait que c'est une ville donc plus pauvre, où il y a des quartiers populaires, où il y a des initiatives qui peuvent ressembler à ce qu'un groupe comme Yesu Camp va produire. Mais c'est très important d'être très lucide qu'on n'a pas les mêmes sources. Dans les dynamiques comme celle de Yesu Camp, la volonté, c'est de créer l'alternative. Donc c'est engagé sur la base d'une intention. Il y a beaucoup d'autres histoires à Marseille qui sont engagées sur la base d'une souffrance, d'un manque, enfin dans des conflits sociaux autour de rénovation urbaine, autour de transformation, où des initiatives civiles se sont organisées, mais dans une adversité sociale réelle. Et aujourd'hui, notamment, ça s'est accéléré avec le confinement, enfin pendant le confinement, devant l'ampleur de ce qu'il fallait accomplir pour pas laisser les gens, enfin les plus fragiles, il y a eu des organisations qui se sont montées de structure à structure. Et côté Yesu Camp, on a utilisé nos lieux pour fabriquer des dizaines de milliers de repas, pour organiser des circuits d'aide alimentaire, pour trouver le moyen d'avoir accès à des hôtels, à un centre de vacances de luxe aussi, qui a permis de loger beaucoup de monde, ceux qui restaient encore à la rue, donc des profils très différents, toxicomanes, familles roms, prostituées du Nigeria ou d'ailleurs. Et dans ce moment particulier du confinement, on a affirmé des coopérations, nos liens de structure à structure se sont améliorés, et je vois aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qu'on a vécu, qui est un témoignage plus individuel, c'est quelque chose qui existe de manière plus large et qui a, il y a une dynamique de coopération qui s'est installée dans la ville.
D'accord. Vous vouliez peut-être parler d'un projet que vous avez ensemble, autre, un peu plus en détail.
Avant, je voulais juste peut-être réagir sur la question du trop cher. C'est-à-dire, certes, les rez-de-chaussée restent souvent vacants, les commerces arrivent à la fin, parce qu'il y a besoin d'avoir les bonnes enseignes qui vont pouvoir payer des loyers et tout ça. Après, je pense que il y a aussi une responsabilité de l'aménageur, finalement, ou des élus. C'est-à-dire, c'est une idée qu'on porte depuis très longtemps à l'agence, c'est de dire que le rez-de-chaussée, finalement, il ne faut pas le vendre très cher. Ou que ça soit presque comme un investissement, c'est-à-dire comme on investit dans un bilan d'aménagement pour faire des espaces publics, le rez-de-chaussée est un bien commun et il faut que ce rez-de-chaussée soit accessible pour que la vie puisse y installer et que la ville soit agréable. Et je pense que là, il y a quelque chose d'assez intéressant à creuser et qu'il faut aller plus loin là-dessus. Certains aménageurs arrivent à le faire, d'autres, plus difficilement, on lutte beaucoup contre ça, parce qu'on est tenu par le diktat des différents bilans d'aménagement. Donc c'est une sorte de réaction que je voulais faire par rapport à ça. Et puis après, sur nos projets communs, je peux parler de Bercy, même si on n'est pas forcément dans le même groupement, vous travaillez plutôt côté activation du site et nous sur le projet plutôt d'aménagement futur. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au final... La démarche qu'on a développée sur le projet aujourd'hui, elle prend complètement en compte ce que vous avez commencé à faire, enfin, cette idée d'activation de ce site, notamment sur la partie triangle avec Bercy beaucoup qui a commencé. Et c'est un projet sur lequel il y avait un projet initial, très métropolitain, très dur, très pont et chaussée, avec beaucoup d'ouvrages, avec énormément d'investissements, et puis du coup un bilan qui tenait, et tous les coûts étaient tenus aussi par cette espèce de densité assez folle. Et puis après, les élections municipales sont arrivées, ce projet n'a pas été complètement accepté par les écologistes à la ville de Paris, le projet a été remis à plat, et c'était pour nous l'occasion finalement de faire un pas de côté, et puis de tester un peu autre chose, c'est-à-dire de laisser à côté la complexité, de faire peut-être des choses un peu plus simples, un peu plus frugales, et du coup de commencer à travailler sur des temps de projet, dont le premier temps donc, qui correspond au temps d'activation actuel, qui va être aussi agrémenté par des travaux d'infrastructure très légers, c'est-à-dire juste une passerelle pour pouvoir arriver sur le site sans bousculer les réseaux souterrains, les choses comme ça, et puis faire en sorte que ce projet vive et que cet espace sur lequel il y a Bercy beaucoup aujourd'hui devienne aussi par la suite une sorte de jardin qui, avec un paysage particulier, un paysage de friche qui va pouvoir aussi se transformer. Voilà.
Vous voulez dire deux mots sur Bercy beaucoup ?
Dans ce projet d'urbanisme transitoire pour lequel effectivement il y a un urbaniste, il y a un aménageur, ce qui nous intéresse, c'est de laisser la place, de donner une place aux personnes démunies, d'où le lien qu'on a découvert avec l'association Aurore depuis Les Grands Voisins et qui ne cesse de s'affirmer depuis. On est souvent en coproduction de nos espaces avec eux. Voilà, des personnes fragiles, la vie végétale aussi, et l'initiative populaire, le fait de pouvoir accueillir des idées. Nous, je suis très content, fier de savoir que sur tous les espaces gérés par Yes We Camp, c'est possible de venir un jour et dire « j'ai du temps demain, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et aujourd'hui, quand on pense aux différents endroits de notre ville conventionnelle, quels sont les endroits dans lesquels il est possible d'arriver en disant « j'ai du temps demain, j'ai du temps la semaine prochaine, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Donc ça permet de recevoir l'initiative des habitants, et puis des artisans, des voisins. Et quelque part, ce qu'ont en commun ces trois choses, la vie végétale, les initiatives populaires et les personnes plus démunies, c'est la fragilité. Et le risque de l'urbanisme, lorsqu'il est fait de manière un petit peu trop affirmée, descendante, oui, c'est d'enlever la place de l'émergence. C'est pour ça que je dis qu'on est plus un urbaniste d'émergence qu'un urbaniste temporaire. Et tout l'enjeu après, c'est d'articuler. On peut fabriquer, nous, des séquences dans lesquelles, en laissant de la place à la fragilité, à l'incertitude, par différentes mécaniques de stimulus que nous avons, hein, qui sont d'ailleurs beaucoup faites par le travail de l'espace, hein, par les architectes, les designers, la manière dont on rentre dans un espace et ce qu'on va ressentir émotionnellement, ça va nous mettre dans une attitude où on comprend qu'il y a de la place pour la fragilité et pour l'initiative. Et donc voilà, on peut fabriquer cette séquence-là au bénéfice de comment la ville vit ce moment-là et comment elle le vivra dans les séquences suivantes.
Est-ce qu'il y a des contre-exemples d'urbanisme transitoire ? Il y a eu des échecs ?
Pour moi, il y a peu d'échecs. Enfin, il y a des projets qui doivent s'arrêter, mais qu'ils s'arrêtent ou qu'ils continuent. Ils ont eu un temps vécu qui a... Enfin, l'échec, pour moi, il est quand ce qui est advenu dans cette période particulière, temporaire, transitoire, n'a pas été suffisamment observé. Mais ce qui s'y est passé dans le moment est toujours une forme d'accomplissement, parce que cela a existé, et cela a existé alors que ça n'aurait probablement pas existé s'il n'y avait pas eu ce contexte.
Et à l'inverse, est-ce que vous avez des exemples de projets qui se sont transformés en projets plus pérennes, ou en tout cas qui ont perduré dans le temps ?
Oui, il y en a beaucoup. Finalement, nous, depuis Yes We Camp et notre quête d'espace dans lesquels on va pouvoir proposer une alternative, l'urbanisme transitoire au sens où un espace est mis à disposition dans le cadre d'une opération d'aménagement qui est pensée et pilotée, c'est plutôt... c'est pas la dominante. La dominante sont des espaces vacants, que vous citiez tout à l'heure, qui nous sont mis à disposition sans forcément qu'on sache en amont l'usage qui en sera fait ensuite. Donc la durée limitée de temps qui nous est donnée, elle est plutôt pour ne pas prendre des risques sur trop longtemps et pour rester dans cette possibilité d'avoir accès à ces endroits gratuitement et pour nous ensuite d'augmenter, de permettre un accès hors cadre financier de ces espaces. Donc dans cette situation où il n'y a pas un projet urbain qui vient derrière, on connaît en ce moment la situation d'un projet qui s'appelle Coco Velten à Marseille, qui est le petit frère des grands voisins, qui est en lisière de l'établissement public d'aménagement en Euro-Méditerranée. C'est un grand voisin miniature, puisque le site, on a un bâtiment de 4000 m² qui appartient à l'État, et dans lequel on a eu cette même juxtaposition qu'on a connue aux grands voisins, entre de l'hébergement d'urgence, des activités entrepreneurial, artisanal. Enfin, il y a 40 structures qui ont des locaux à l'intérieur de ce bâtiment et des espaces ouverts au public avec une cantine solidaire, un toit terrasse qu'on laisse en accès libre, des salles qui peuvent être louées ou prêtées et puis aussi une grande salle qui permet de faire des spectacles. Et ce projet aujourd'hui est arrivé à son terme, qui était de 3 ans. Et on a le préfet donc, qui représente le propriétaire puisque ça appartient au domaine, nous a donné une année supplémentaire en réponse à notre demande de dire donnez-nous le temps d'organiser une acquisition collective, une acquisition citoyenne, et de se dire on doit fabriquer une forme de propriété d'usage autour de ce site. Donc là, on est dans cette année supplémentaire. Les travaux que nous avons d'anticipation que nous avons réalisés sur le modèle économique nous ont permis d'affirmer que l'économie frugale du site n'était pas en mesure de porter un emprunt suite à une acquisition que nous aurions réalisée. Quelque part, c'est une affirmation forte. Ça veut aussi dire que c'est ce qu'on observe dans ces sites, dans ces tiers-lieux, dans ces phases urbanistes transitoires, avec toutes les vertus et les externalités positives que l'on peut y découvrir. Ce ne sont pas des projets qui peuvent s'auto-financer, s'auto-alimenter dans une économie de marché. Donc c'est quelque part, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a besoin d'intervention publique. Donc pour nous, l'économie des communs qui existe sur ces sites, avec toutes les générosités qui existent, le fait d'être ouvert 80 heures par semaine, d'avoir accès à de nombreux services, rien que le fait de pouvoir s'asseoir, aller aux toilettes, charger son téléphone, avoir du wifi, ce qui est le cas dans tous nos sites, c'est quelque chose qui a besoin d'un appui de la puissance publique. Donc notre équation magique, ça va être que l'économie des communs, c'est l'addition de l'économie immobilière qu'on fait exister sur nos sites, en accueillant des structures qui elles-mêmes payent une contribution aux charges, à laquelle on additionne une économie marchande, c'est des sites sur lesquels on vend des choses, on vend des prestations, on vend des locations de salles, on vend des repas, des spectacles parfois, enfin pas dans notre cas, puisque nous, la programmation culturelle est toujours gratuite, mais ça pourrait être le cas. Donc économie immobilière, plus économie marchande, plus économie d'intervention publique, qui nous permet d'avoir cette économie des communs.
Dans ces projets-là, est-ce qu'il y aurait des aptitudes écologiques qui permettraient après au projet définitif quand il arrive ? Pas forcément.
Bah après, c'est à la fois intervention minimale sur un site, à la fois la question du réemploi, à la fois la question du lien social. Enfin,
c'est dans l'ADN.
Les ODD, là, on cache toutes les cases. Après, je reviendrai plutôt sur cette question. Enfin, cette question de réusage des bâtiments existants, je pense, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant par rapport au bilan carbone global d'une opération. Et en fait, le fait, je citerai du coup là, sur Romé 2, il y a typiquement enfin, la halle des makers qui va être gardée, il y a les ateliers Jeanne Barré qui vont être gardés aussi. C'est-à-dire, initialement, il y avait un plan d'ensemble qui rasait tout ça. Aujourd'hui, le plan s'adapte. Les rues sont tracées autrement, les constructibilités baissent, mais le projet évolue aussi. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est cette surprise. Et le fait de garder plus de choses, c'est aussi des vertus écologiques.
Mais peut-être Mohamed, ça pourrait être intéressant de raconter davantage, ici Marseille, enfin, l'atelier des makers et l'atelier Jeanne Barré. Parce qu'effectivement, c'est très intéressant ce qui se passe sur ces sites.
Oui, en fait, ici Marseille, donc c'est ici Montreuil, enfin, qui sont installés à Montreuil. Donc, c'est un collectif de makers, d'artisans, qui se sont installés, sur Euro-Méditerranée, donc sur la ZAC littoral. Donc, dans la ZAC littoral, il y a ce qu'on appelle le macro-lot des fabriques, qui est un très gros macro-lot de 150 000 m², porté par la société des fabriques, donc qui est Urbanera, Bouygues Immobilier et Link City. Donc, c'est un partenaire privé qui a proposé, dans le cadre des discussions qu'on a eues à l'époque avec eux, a donc décidé donc d'accueillir et d'investir. Donc c'est un partenaire privé qui a investi pour accueillir les makers sur une halle, qui s'appelle la halle Paoli, à côté des puces à Marseille. Donc ils se sont installés. Donc ils ont une activité qui fonctionne et qui fonctionne, avec tout un espace de restauration à côté. Et donc c'est un usage qui a bien pris sur ce site-là. Juste après, donc on nous a beaucoup posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un autre espace. Donc on a commencé à étudier, où est-ce qu'on va trouver des rez-de-chaussée assez grands pour les accueillir? Et finalement, en fait, on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à trouver d'espace. Et au final, c'est la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre qui continue du coup ce projet. En fait, la décision a été prise plutôt de les garder, avec aussi tout un écosystème qui a commencé à se développer tout autour.
Et si on prend du recul, on est dans un cadre où on a un quartier avec aucune attractivité, très compliqué, assez peu habité. Là, il y a l'audace d'aller installer une sorte de micro-usine, quoi, une usine collective où on prend un bâtiment, c'est 3000 m², je crois, mais qu'ici achète des machines qui coûtent un peu cher pour ensuite les partager et fait venir des artisans. Le projet s'autofinance parce que les artisans payent un droit à être ici pour utiliser les machines. Donc on part d'une situation à attractivité, à activité très faible, et on a des personnes qui viennent commencer à travailler. Ces artisans, idéalement, ils vont travailler, ils vont mieux se connaître et prendre des commandes groupées, notamment pour participer à la construction du quartier sur des éléments de seconde œuvre une fois que des bâtiments sont construits. Et en étape 3, ils restent. Et ils restent en ayant cet écosystème d'artisans qui leur permet de prendre des commandes qu'ils n'auraient pas pu avoir s'ils étaient restés seuls. Ils sont récompensés quelque part de leur audace à avoir été pionniers sur un territoire pour ensuite être situés au cœur d'une ville constituée en gardant cette dimension productive à la cité.
Alors selon vous, est-ce une compétence qui sera amenée à se multiplier? Autrement dit, quel avenir pour ce type de projet sur les territoires? Et est-ce une tendance internationale ou juste française?
Je dirais que vu les ressources actuelles, vu la complexité du monde aujourd'hui, la difficulté de faire des projets urbains plus durs, plus structurés, je pense que c'est quelque chose qu'on fera de plus en plus. Et c'est quelque chose qui va se développer dans les années futures, j'ai pas de doute là-dessus. Ouais. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que des fois, typiquement, je prends l'exemple de Marseille, il y a eu la démarche MOVE, c'est la démarche d'urbanisme transitoire, c'est Massalia Open Village, développée par le PEA Euro-Méditerranée, qui a fait l'objet d'un premier AMI, un appel à manifestation d'intérêt pour accueillir des activités dans des lieux vacants. Et donc ça, il y a une sorte de première étape qui a permis donc d'accueillir les alchimistes, les ateliers Jeanne Barré, donc c'est une sorte de première étape. Et puis après, il y a eu une deuxième phase qu'on a appelée MOVE 2, un moment où on était dans le même type de démarche, donc plutôt un appel à manifestation d'intérêt avec l'usager au cœur du projet. Et donc là, on avait lancé un autre appel à manifestation d'intérêt, mais plutôt pour des projets peut-être plus pérennes, mais qui étaient faits un peu de la même manière, c'est-à-dire comment occuper des espaces, comment trouver le modèle économique. Et ce qu'on avait fait à l'époque, c'était en associant un espace, un bâtiment existant, et puis une parcelle à construire. Donc, qui permettait aux opérateurs de finalement trouver un équilibre économique. Donc, il y a eu des lauréats qui ont fait des projets assez intéressants, notamment dans le village des Crottes, pour accueillir un lieu dédié aux arts graphiques et au street art. Voilà.
Bon. Vous vouliez rajouter quelque chose, mais peut-être dans le cadre d'un mot de la fin?
Je pense, plus qu'une compétence, c'est une méthode. Et moi, ce que je trouve important, c'est que on dépasse le côté objet ou lieu ou seulement projet pour se dire regardez ce qu'il y a en transverse. Et les méthodes utilisées pour un projet d'urbanisme transitoire, on peut aussi les utiliser à l'échelle de la gestion d'un quartier. En ce moment, on travaille à Roubaix, où sur un quartier qui n'a pas eu son ticket pour l'ANRU, Donc il est dans la file d'attente. Et la question, c'est, quelque part, on le prend comme une opportunité. Avant de dépenser beaucoup d'argent, de beaucoup d'interventions physiques, qu'est-ce qu'on est capable de faire en l'état, dans un quartier qui est un peu en impasse et qui fait 40 hectares? Donc quelquefois, moi je me dis, c'est juste les grands voisins en 10 fois plus grand. Et quels sont les stimulus qui peuvent révéler et mobiliser l'implication des habitants et de ceux qui pratiquent ce territoire? Et on a pensé, on met en place deux outils. Le premier, c'est une plateforme de mise à disposition d'espace. Donc que le propriétaire soit public ou privé, c'est pas grave. On le met dans la cagnotte commune sur la table et on a un système d'intermédiation qui permet de rendre ces endroits, qu'ils soient petits ou grands, ces lieux disponibles pour des implications des forces du territoire. Et ça permet, cette intermédiation, elle permet aussi de mutualiser des fonctions, des métiers qui sont plus pointus autour du juridique, de l'architecture, des bureaux de contrôle, pour être sûr que les projets puissent se dérouler des meilleures conditions. Et c'est aussi cette plateforme qui prend le risque d'intervenir si jamais le projet se passe mal. Et la deuxième, c'est d'avoir une sorte de régie mobile d'intervention qui permet d'apporter la compétence de transformation rapide et progressive des espaces vécus, qui est un des ingrédients structurants de nos interventions.
Et moi, comme mot de la fin, en fait, je ne parlerai pas de transitoire, mais de parler du projet. Et des fois, finalement, il faut peut-être marteler des idées. C'est-à-dire que les idées sont quand même importantes. C'est-à-dire porter une ambition sur un territoire, les marteler, c'est aussi les faire exister, même si elles ne sont pas faisables à court terme, et de construire le chemin pour y arriver. Là, je prends l'exemple du parc des Égalades, par exemple, à Marseille. La renaturation de ce ruisseau dont on parle depuis très très longtemps, on l'a beaucoup martelé pendant des années, on l'a dessiné, on a communiqué dessus. Aujourd'hui, elle va commencer à voir le jour avec le parc Bougainville en première séquence. Elle verra le jour plus tard sur le faisceau de la gare du Canet. Et je pense que c'est important des fois donc de porter une ambition sur un territoire, de dessiner des choses ambitieuses et d'être ambitieux, tout simplement, pour pouvoir construire des projets par la suite. Voilà.
Bon. Vous êtes toujours dedans et pour toujours, dans votre esprit, votre avenir, ce sont ces projets.
Aujourd'hui, moi, je me suis décalé de la direction de Yesucamp. Là, ça fait un an et demi qu'il y a une autre direction et je reste toujours très proche. Mais je voulais avoir ce temps de rencontre, d'élargissement du regard. Mais je reste convaincu, je suis très mobilisé sur le fait qu'il faut beaucoup oser aujourd'hui pour trouver des formes d'organisation sociale différentes. Et il faut oser avec l'architecture sociale. Et pas forcément physique. Il faut oser faire confiance à des initiatives, les encourager, les accompagner et pas les observer seulement d'une manière distante en attendant que ça se plante ou que ça se fatigue. Quand il y a les prémices de quelque chose qui se structure, c'est important qu'on compose mieux une grande chaîne qui va depuis ces initiatives presque spontanées qui jaillissent et qui doivent trouver des relais d'accompagnement auprès des entreprises, auprès de la puissance publique.
Merci beaucoup d'être venu répondre aux questions dans Comme d'Archi sur ces nouvelles manières de faire territoire. Et chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro tout aussi prometteur et passionnant du cycle Leclerc Associé. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais mercredi et prenez bien soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.